Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888.
Autour du western s'établit toujours une relation complexe entre le passé et le présent. Le passé, ben, c'est l'époque qui est représentée dans les films, donc en général le 19e siècle, disons, pour aller vite, la fin du 19e siècle. Et le présent, ben, c'est l'époque où les films sont réalisés, puisque le cinéma naît à peu près au moment où la conquête de l'Ouest s'achève. La conquête de l'Ouest, elle est déclarée achevée en 1890, et le cinéma est né quelques années plus tard. Donc il y a vraiment une concordance entre la fin de la conquête de l'Ouest et le début du cinéma. Donc le genre western apparaît comme un genre essentiellement nostalgique. Et la nostalgie, on le sait, la nostalgie, elle déforme le passé, souvent elle l'idéalise, et elle crée des mythes, des fictions. Hein. La nostalgie, en fait, nous donne une image du passé qui est toujours teintée de fiction et d'idéalisation. Cette nostalgie, c'est un des thèmes du film des frères Coen qui s'appelle No Country for Old Men, qui était sorti en 2007. Et dans lequel joue Tommy Lee Jones qui joue le rôle d'un shérif vieillissant qui est pris par la nostalgie et dont le regard va orienter celui du spectateur.
J'ai été shérif de ce comté à 25 ans. Difficile à croire. Mon grand-père était shérif. Mon père aussi. Lui et moi, on l'a été en même temps. Lui à Plano et moi ici. Je crois qu'il en était fier. Moi, en tout cas, je l'étais. Dans le temps, il y a des shérifs qui portaient même pas d'armes. Beaucoup de gens ont du mal à le croire. Jim Scarborough n'en a jamais porté. Je parle de Jim, le fils. Gaston Boykins, du comté de Comanche, il n'en portait pas lui non plus. J'ai toujours aimé entendre parler des anciens. Quand une occasion se présentait, je la ratais jamais.
Alors, le film des frères Coen propose des échos subtils à Trois enterrements, film réalisé par Tommy Lee Jones lui-même de 2 ans auparavant. Par exemple, le lieu d'abord est la frontière américano-mexicaine, évidemment. La première scène aussi, qui est vue dans les deux cas à travers les lunettes d'un fusil de chasse. Hein, et voir une scène à travers les lunettes d'un fusil de chasse, c'est non seulement jouer avec le surcadrage, hein, donc cadrer différemment l'image, surcadrer l'image, mais aussi c'est voir avec une certaine violence, hein, puisqu'on voit à travers une arme, comme si le spectateur était placé lui-même dans la position de celui qui allait tirer. Donc des allusions au film de Tommy Lee Jones, et puis aussi, bien sûr, la relation au cheval, puisque là aussi, élément central du western, la relation entre le cavalier et son cheval, puisque la première fois, par exemple, qu'apparaît Tommy Lee Jones, il s'occupe de son cheval, et une de ses dernières répliques va être justement « Je ferai bien un tour à cheval ». Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est la capacité qu'ont les frères Coen de s'emparer d'un genre, en même temps avec une certaine forme d'ironie et en même temps en essayant de le revivifier. À cet égard, d'ailleurs, sur la revivification, peut-être que le dernier western des frères Coen, True Grit, qui lui certainement est un western, est un peu décevant. Personnellement, j'ai été un peu déçu par ce film parce qu'il m'a semblé justement que le genre était cité sans être vraiment revivifié. Alors que dans No Country for Old Men, il est revivifié notamment par la tendance à l'hybridation qui caractérise souvent d'ailleurs le cinéma des frères Coen. On peut voir No Country for Old Men comme un western, mais on peut le voir aussi comme un conte philosophique, on peut le voir aussi comme un film noir, on peut le voir aussi comme un road movie, et on peut même le voir peut-être en exagérant un petit peu éventuellement, comme un film de zombies. Parce que le personnage qui est interprété par Javier Bardem, justement, eh bien, il est à la fois une caricature du chasseur de primes des westerns, avec la froideur absolue de sa violence, etc. Et puis, il semble aussi faire penser aux zombies des films de Romero, par exemple, avec sa lenteur, avec son côté indestructible. Hein, on peut penser à la toute dernière scène, là où il a un accident et où il ressort bien sûr de l'accident, chancelant mais toujours vivant. Et à cet égard, donc, le personnage joué par Bardem, il apporte vraiment quelque chose au film. Il apporte cette tonalité un peu fantastique. On peut citer par exemple une très bonne scène autour de la 20e minute du film, la station service, hein, où il fait jouer à pile ou face le gérant de la station. Où là, il y a vraiment cette idée d'un destin, là aussi, cette idée d'une dimension mythologique et presque absurde de l'existence. Et cette absurdité, d'ailleurs, n'est pas étrangère à ce que j'avais pu dire dans d'autres chroniques sur la dimension existentialiste de certains films, par exemple de Monty Hellman. Et c'est vrai que le personnage joué par Javier Bardem dans le film, il a quelque chose de l'étranger de Camus aussi. C'est quelqu'un qui existe dans le réel, mais qui semble venir d'ailleurs, qui semble complètement étranger aux sentiments et aux enjeux de ses semblables.
C'est quoi le plus gros que vous ayez perdu à pile ou face ?
Ah ?
Le plus gros que vous ayez perdu à pile ou face ?
Je sais pas du tout, je sais.
Annoncer.
J'annonce ?
Oui.
Mais qu'est-ce qu'on parie ?
Annoncer.
Mais il faudrait savoir sur quoi est-ce qu'on parie.
Il faut que vous annonciez. Je peux pas le faire à votre place. Ce serait pas juste.
Mais j'ai rien parié, j'ai rien misé.
Bien sûr que si. Vous avez passé toute votre vie à parier sans le savoir. Vous savez de quelle année elle est, cette pièce ?
Non.
1958. Cette pièce a mis 22 ans à arriver ici. Et maintenant, elle est là. Et c'est pile ou face. À vous de jouer, annoncé.
C'est-à-dire qu'il faudrait que je sache ce qu'il y a à gagner ?
Tout.
C'est-à-dire ?
Vous avez tout à gagner, annoncé.
D'accord. Face, alors ?
Donc le monde filmé par les frères Cohen apparaît effectivement comme un monde incompréhensible et même comme un monde dont toutes les valeurs se sont absentées. Et ce monde, justement, eh bien, il produit du désarroi et de l'étonnement chez le vieil homme, hein, The Country for Old Man. Et le vieil homme, eh bien, c'est Tommy Lee Jones, c'est le shérif. Et le début du film, d'ailleurs, commence par une voix off, c'est la voix du shérif, où il évoque avec nostalgie... le temps où, dans l'Ouest, les shérifs n'avaient pas besoin de porter d'armes. Voilà, il regrette le temps béni où les shérifs de l'Ouest n'avaient pas besoin de porter une arme. Et cette voix du tout début du film fait écho à une séquence à la fin du film, qui commence par un très beau plan d'un espace aride avec une petite baraque et une éolienne au fond, que vont rejoindre le shérif à bord de son véhicule. Et en fait, il rend visite à Ellis. Et Ellis, c'est un vieux monsieur, encore plus vieux que lui, qui était l'adjoint de son grand-père quand lui-même était shérif, donc... à l'époque, justement, du western. Et la porte grince, et puis Ellis, qui est assis devant son frigo dans un fauteuil roulant, donc tous les signes de la fin d'un monde, justement, eh bien, il parle avec lui de cette époque soi-disant bénie, du tout début du XXe siècle, et puis Ellis, il lui dit, mais tu sais, à l'époque, c'était pareil, il lui parle de l'oncle Mac, qui avait été massacré par les Indiens, et il lui dit, tu sais, ce que tu éprouves n'a rien de nouveau, ce pays est dur à vivre, et Tommy Lee Jones se rend bien compte que cette nostalgie qu'il avait pour un âge d'or, eh bien, en fait, elle était en grande partie reconstruite et fictionnelle. Et Tommy Lee Jones, d'ailleurs, dans cette séquence aussi, fait allusion à Dieu. À Dieu, Dieu, bah, c'est justement le garant des valeurs, le garant du sens de l'existence. Et il dit, bah, toute ma vie, j'ai attendu que Dieu se manifeste à moi et j'ai attendu en vain. Il ne s'est pas intéressé à moi, il ne s'est pas intéressé à ma vie, il n'est pas venu me voir et il dit même, et finalement, je le comprends. Et cette parole... elle s'achève avec la fin de la séquence et il y a un raccord sur le gros plan d'un cercueil qui descend dans une fosse. Donc là aussi, vanité des vanités, tout est vanité et Dieu est bien absent du film des frères Cohen. Donc l'intérêt du film... en fait, va être aussi justement dans ce contraste, en fait, dans cette tension entre d'un côté une violence et une cruauté très, très réaliste, et d'un autre côté, bah, cette tendance à la déréalisation, notamment qui se joue sur cette nostalgie, justement, le regard que porte ce shérif interprété par Tommy Lee Jones sur le réel, il est en grande partie déréalisant, et à cet égard, d'ailleurs, les frères Cohen parsèment leur film de signes comme par exemple la répétition d'un plan de la maison de Moss, personnage central du film, où les visiteurs se reflètent sur l'écran de télé, comme s'ils étaient surcadrés encore une fois, et comme s'ils étaient eux-mêmes finalement que des fantômes. La prochaine chronique, j'aborderai un film culte, enfin bon, la notion de film culte n'est pas évidente à aborder, mais un film culte qui a été réalisé en 1970 par Alejandro Jodorowsky, qui a donc réalisé El Topo en 1970, et ça sera l'objet de la prochaine chronique.
Le monde se divise en deux catégories, ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.radiogrenouille.com.